Argent compté.
Argent compté.
Argent compté.
Il était une fois, deux fois, trois fois, son investissement initial.
Patrimoine.
Investissement.
Héritage.
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de rendement.
Equity.
Dette.
Bonjour, je suis Caroline Lamou et je vous présente Argent compté, un podcast qui vise à vous raconter toutes les facettes du patrimoine, de l'investissement et de l'épargne, avec une approche décomplexée pour enfin s'intéresser à son argent sans peur et sans tabou. L'investissement, ça vous paraît moyennement excitant ? Je vous comprends. Pourtant, c'est quand on connaît sur le bout des doigts les bonnes pratiques et les bonnes idées qu'on commence à faire travailler son argent pour satisfaire ses objectifs de vie. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'ai créé il y a 8 ans une plateforme d'investissement d'un nouveau genre, Anaxago. L'idée était de donner accès à l'investissement dans des opportunités uniques et performantes pour tout le monde. 8 ans plus tard, nous avons plus de 100 000 membres investisseurs et presque autant de conseils donnés et d'interrogations racontées. Le point commun ? La peur de se tromper, de perdre son argent ou encore de rater des occasions en or. C'est pour ça que je lance Argent compté, parce qu'il est temps de changer et de lever tabous et angoisses pour vous livrer à la fois les conseils des meilleurs experts, leurs meilleures pratiques et leurs bonnes idées, mais aussi explorer les biais cognitifs et les craintes liées de tout temps à l'argent. Aujourd'hui dans Argent compté, il était une fois, la finance peut-elle sauver la forêt ? La forêt française, particulièrement précieuse pour le climat et la biodiversité, est en proie à des crises multiples. Une mortalité croissante, qui a bondi de 80% en 10 ans, et des dépérissements massifs. Résultat de ces difficultés, la capacité de la forêt à stocker du carbone diminue. Les arbres ont retiré de l'atmosphère 40 millions de tonnes de CO2 par an en moyenne entre 2013 et 2021, contre 60 millions de tonnes de CO2 au cours de la décennie précédente. Un enjeu majeur alors que la France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050. Et si des dispositifs financiers digitalisés, destinés pour rationaliser le traitement de la forêt, étaient la clé de sa conservation ? Le sujet vous intrigue ? Je dois dire que moi aussi. J'étais donc ravie de rencontrer Georgine de Saporta, la fondatrice de Trimium et mon invitée pour cet épisode. Bonne écoute !
Sylvicole, éventuellement.
Sylvicole ?
Oui, sylviculture, sylvicole. C'est une forme d'agriculture, l'agriculture de l'arbre.
Ah, on va apprendre énormément aujourd'hui. Et donc, vous l'avez entendu, j'ai le plaisir de recevoir Georgine de Saporta, la fondatrice de Trimium, pour échanger aujourd'hui sur ce sujet. Georgine, bienvenue.
Merci Caroline de me recevoir et de me donner la chance d'expliquer à tout le monde ce qu'on peut faire pour aider la forêt française.
Ouais, ça va être merveilleux. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. J'ai regardé un peu ton parcours, j'ai eu le sentiment que toi, tu avais fait une grande partie de ta carrière dans l'immobilier, en tant qu'entrepreneuse, c'est ça ?
C'est pas mal dans la finance. En fait, j'ai une formation technologique en étant une formation d'ingénieur informatique. D'accord. Après, j'ai été consultante dans la finance au moment du passage à la monnaie unique. Et après, j'ai créé un cabinet de courtage en crédit immobilier qui s'appelle Courtissimo. Et effectivement, ça a un lien avec l'immobilier puisque c'était que des clients qui achetaient de l'immobilier. Voilà.
Donc, entrepreneur dans l'âme.
Entrepreneur dans l'âme. Et pourquoi est-ce que je suis arrivée à Trimium aujourd'hui et quel est le lien avec Trimium ? En fait, je suis née au milieu de la forêt. J'ai un père qui est expert forestier. Il n'y a que 150 experts forestiers en France et qui est exploitant forestier. Je suis née au milieu des arbres et je pourrais dire en quelque sorte que j'ai la sève des arbres qui coule dans mes veines. Et j'ai été frappée par la menace qui pèse sur la forêt aujourd'hui. Et en même temps, me disant que c'était une évidence qu'avec la technologie qui existe aujourd'hui et la finance, on peut apporter une vraie solution à la forêt. Donc pour moi, c'était une obligation, je devais y aller parce que ça me tient trop à cœur de pouvoir soutenir la forêt française.
C'est joli. Souvent, il y a des histoires qui sont trop jolies pour les mots, mais bon, on va essayer de les transmettre au mieux. Dans quelle région
Je suis née dans le Berry, c'est pas très loin, entre Bourges et Vierzon, au milieu des belles forêts diversifiées de chênes, entre autres.
Ah oui,
il y a aussi des très belles forêts dans le Limousin.
Oui, c'est des... et donc c'est vrai qu'on a une chance incroyable. Pour ceux d'entre vous qui connaissent bien la France, on a un paysage forestier qui est sublime. Moi, je viens d'une région qui est très verte, toi aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du patrimoine des forêts françaises ? C'est comme ça que vous voulez.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. On a la chance en France d'avoir des forêts qui sont là depuis pas mal de siècles, qui sont une richesse. Et aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup de planter de nouveaux arbres. Et du coup, c'est très bien, mais on répond à un problème pour demain. On a aujourd'hui un vrai patrimoine forestier. Et moi, ça me tient à cœur de pouvoir transmettre ce patrimoine forestier aux générations futures. En ce moment, il y a un vrai sujet de surexploitation des forêts. Du coup, on a la taille des forêts qui augmente et pourtant la capacité de stockage carbone des forêts devrait logiquement avoir augmenté aussi. Mais en réalité, on a perdu 48% de capacité de stockage carbone en 15 ans, d'accord, ce qui montre qu'il y a un vrai souci en termes de chiffres dans nos forêts actuellement. Et puis on le voit sur le terrain, on voit les forestiers qui sont un petit peu les agriculteurs, comme je le disais, de la forêt, qui disent on voudrait qu'on ait une gestion plus durable des forêts, mais on nous donne pas, on n'a pas les moyens. Donc avec la solution de Trimium, l'idée c'est de leur donner plus de moyens en termes de connaissance de leur forêt et en termes financiers.
Cette baisse du stockage carbone, de la capacité de stockage carbone de la forêt, elle est due à la déforestation, elle est due à ce qu'on replante, ce sont des arbres trop jeunes, donc on n'est pas sur la même capacité. Comment ça s'explique de manière très concrète pour nous qui ne connaissons pas grand-chose ?
En fait, il y a plusieurs éléments. S'il y avait un seul élément, ce serait trop facile, évidemment. Déjà, les arbres, quand ils sont stressés, captent moins bien. Donc on voit que plus la gestion de la forêt est bonne, plus les arbres captent bien du CO2. Et puis, une des grosses explications, c'est que nos forêts sont en train d'être rajeunies parce qu'il y a une demande et une pression sur le marché du bois qui est très importante. Qu'un forestier, on peut le prendre un petit peu comme un chef d'entreprise. Et si on prend l'exemple du chêne, il va gérer un stock qui est sur 150 à 200 ans. En même temps, il a en face de lui cette pression et cette demande du bois, en particulier les Chinois, par exemple, qui ont interdit qu'on coupe des chênes chez eux pendant 99 ans. Donc, ils ont une proposition d'acheter, de vendre leurs chênes à 80 ans, alors que ces chênes pourraient encore vivre 50 ans. Et eux sont pris dans un dilemme avec un enjeu économique de sécuriser leur avoir et puis avec des besoins financiers pour gérer leur forêt, et puis ce dilemme de laisser vieillir leur arbre et de laisser à cet arbre toute sa capacité de stockage carbone. Voilà pourquoi, d'un point de vue économique, on a ce problème d'arbres qui peuvent être coupés trop jeunes.
La durée de vie, j'ai envie de dire optimale, mais non, on ne peut pas dire ça.
C'est un petit peu quand même, en fait.
Ouais. C'est quoi la durée de vie optimale d'un arbre ou d'un chêne ?
Alors, si je prends l'exemple du chêne, l'idéal, c'est entre 130 et 150 ans. Et aujourd'hui, il y a des acheteurs à des très bons prix quand ils ont 80-90 ans. En termes de captation carbone, l'arbre, au départ, capte très, très peu de CO2. On dit que, par exemple, il faut plus de 15 arbres nouvellement plantés pour compenser un arbre coupé de façon prématurée. Et il faudra 80 ans à un arbre nouvellement planté pour atteindre la même captation CO2 des arbres qu'on coupe trop tôt aujourd'hui. Donc nous, on adresse une réponse à l'urgence climatique de maintenant, qu'on laisse ces arbres continuer à faire leur rôle de capteur CO2. Et alors, donc ça grimpe. Une fois qu'ils ont 80 ans, ils sont à peu près à leur pic de captation CO2 et ça reste, cette captation dure pendant 50 à 60 ans. Mmh. C'est pour ça qu'on dit qu'à ce moment-là, il faut vraiment tout faire pour les garder en vie. Et l'autre chose très bénéfique de les garder plus longtemps, oui, c'est que plus on les garde longtemps, plus c'est du bois de qualité. Donc plus c'est des chênes qui vont traverser ensuite en utilisation les décennies, voire les siècles. Par exemple, je ne sais pas si tu sais, mais Notre-Dame, on est allé chercher dans nos forêts, notamment un de nos forestiers pilotes a donné des chênes à Notre-Dame. Ils ont tous au moins 150 ans.
Je ne le savais pas, mais comme j'ai lu ton livre avant qu'on se voit aujourd'hui... Non, je sais.
Et voilà, et tu vois, c'est parce qu'ils ont 150 ans qu'ils vont pouvoir à nouveau traverser des siècles, alors que s'ils étaient plus jeunes, ça serait une utilisation qui dure moins longtemps, et donc du CO2 qu'on rejettera plus vite dans l'atmosphère.
Et si je peux revenir juste sur un détail qui n'en est pas un, qu'est-ce que c'est un forestier ? C'est un chef d'entreprise de la forêt, mais c'est-à-dire qu'il est propriétaire de la forêt, c'est lui qui l'exploite. Quand tu dis qu'il n'y a que 150 forestiers.
Alors oui, excuse-moi. Non, mais voilà, j'ai pas été du tout assez claire. Il y a ce que j'appelle le forestier, quand je parle, c'est souvent effectivement les propriétaires forestiers, c'est ceux qui ont la responsabilité de la gestion de ce stock. Et après, tu as des experts forestiers qui travaillent pour plusieurs propriétaires forestiers et qui sont un peu comme nos notaires dans l'immobilier qui font foi. Quand un expert forestier dit quelque chose et on travaille avec différents experts forestiers, c'est vraiment un coup de tampon qui fait foi.
D'accord, ok. Experts forestiers et les forestiers, ok.
Et après, tu as aussi des coopératives. C'est un autre système qui sont au service des propriétaires forestiers.
Aujourd'hui, les forêts françaises, elles sont toutes détenues à titre privé ou par des coopératives ou... Est-ce qu'il y a des forêts
Oui. Non, il y a des forêts. Il y a deux tiers des forêts sont des forêts privées. On a 17 millions d'hectares de forêts. Et le reste des forêts sont des forêts publiques qui sont gérées par l'ONF.
D'accord. Et ONF,
Organisme National des Forêts.
Ok, super. Et sur les deux tiers de privés, enfin même sur la totalité des forêts, quelle est la part de forêts qui sont entre guillemets exploitées et d'autres qui sont laissées, je ne sais pas si on dit en jachère
pour les forêts. Alors, en tout cas, dès que des forêts ont une certaine taille, globalement, elles sont gérées. Et il y a un expert forestier ou une coopérative qui marche main dans la main avec les forestiers. Après, il y a un autre sujet qui n'est pas celui qu'on adresse aujourd'hui, mais qui demain pourra... On a aussi une réponse pour ce sujet. C'est les toutes petites forêts qui n'ont pas forcément les moyens de les gérer. Et en fait, on a une assez bonne surface. On a à peu près 10 000 propriétaires de gros domaines. Mmh. Et après, il y a pas mal de toutes petites forêts. On dit qu'on a à vérifier, mais à peu près 5 millions d'hectares de toutes petites forêts en France, ce qui est important. Et c'est pour ça que demain, notre solution, de faire comprendre à ces tout petits, entre guillemets, propriétaires forestiers, que finalement, ils ont déjà de la valeur et que leur arbre vivant a déjà de la valeur, ça peut être aussi quelque chose qui encouragera les petits propriétaires forestiers à prendre conscience de la richesse pour la planète et même pour eux-mêmes.
Aujourd'hui, comment ça se valorise une forêt ? Parce que moi, je sais que le père de mon papa a laissé quelques hectares de forêt. Des hectares de... Ce sont des châtaigniers.
Super.
Et je suis pas certaine. Je crois qu'on avait parlé de ça avec papa quand mon grand-père est parti. Et je me pose la question de comment tu valorises une forêt aujourd'hui. Est-ce que c'est dû à la surface, forcément, la nature de l'arbre, la situation. Je me rends pas du tout compte. Je sais que on a un collègue ici qui a des forêts en Bretagne et qui vend le bois, effectivement. Mais en fait, comment ça fonctionne?
Alors, pour que tu aies une réponse précise, c'est comme je te disais, l'expert, c'est un peu comme le notaire dans l'immobilier.
Donc, tu veux valoriser ta forêt, tu vas avoir un expert forestier.
L'expert forestier te donnera une réponse précise sur comment valoriser et quelle est la valeur de ta forêt. Okay. Moi, ce que je peux te dire sur la valorisation des forêts, c'est qu'il y a deux éléments à prendre en compte. Mmh. C'est le foncier, la terre et ce qu'on appelle le stock, les arbres qui sont sur ta terre.
Très clair, hein. Oui.
Et donc, des châtaigniers, suivant l'âge de tes châtaigniers, la qualité de tes châtaigniers, l'endroit où ils sont placés, la densité, tu auras une valeur sur ta forêt et c'est là où l'expert te donnera une réponse claire. Nous, ce qu'on fait chez Trimium, c'est qu'on a dissocié le foncier, la terre, du stock des arbres et on permet aux forestiers de donner une valeur à leurs arbres vivants, parce qu'aujourd'hui, un arbre n'a une valeur financière que quand il est coupé. Donc nous, la révolution, c'est de faire en sorte que l'arbre vivant ait une valeur financière, qu'il soit identifié, et ensuite qu'il ait une valeur financière, et de permettre à Monsieur Tout-le-Monde de venir investir dans cet arbre. Comme on prend que l'arbre et pas la terre, on a un rendement historique qui est meilleur que quand tu as toute la forêt parce qu'on prend que des arbres qui ont déjà un certain niveau de maturité et donc on n'a pas de déperdition d'arbres qui n'arriveraient pas à maturité, etc. On prend des arbres à partir du moment où ils ont 30 cm de diamètre, ce qui veut dire qu'ils sont déjà du bois d'œuvre, c'est pas du bois énergie, ils ont déjà la valeur d'être du bois d'œuvre, ils peuvent déjà être achetés par des scieries, c'est du bois de construction, par exemple. C'est déjà un bois qui a une vraie valeur marchande.
Je crois qu'on va on va se parler 2 heures, genre, j'ai un nombre de sujets.
Surtout qu'on est parti dans plusieurs directions en même temps, mais c'est vrai que la forêt, c'est un monde qui est peu digitalisé parce qu'effectivement, très, très complexe et très varié.
Moi, je trouve ça génial ce que vous faites. C'est un tout petit peu contre-intuitif dans le sens où la forêt, c'est la forêt. Est-ce que tu as envie de la digitaliser? Tu vois, c'est un peu la question qu'on se pose. Mais si ça permet de la préserver, et c'est un peu le sujet sur lequel on va venir au fur et à mesure de ce podcast, c'est une opportunité extraordinaire. Je veux dire, en or, en bois, mais...
Une des choses qui m'a inspirée, c'est un passage du Petit Prince, hein, ouais. Où tu as un moment, une question. Si tu dis à un adulte, t'as vu cette maison, ces briques roses, ces plantes, qu'est-ce qu'elle est jolie? L'adulte ne va pas comprendre. Ouais. Si tu dis à un adulte, cette maison vaut 100 euros, l'adulte va dire, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et c'est un peu mon idée, c'est de me dire qu'une des façons d'aider à protéger les arbres, c'est de les avoir bien identifiés, déjà de pouvoir prouver leur carte d'identité, et ensuite de leur donner une valeur qui font qu'on va comprendre l'intérêt de les protéger et ce que ça représente. Ça, c'est pour la petite histoire. Après, d'un point de vue concret, c'est un besoin des forestiers, parce que on voit bien ce qui se passe aujourd'hui avec les agriculteurs, et je le redis, les forestiers sont des agriculteurs. Ils ont besoin d'avoir une meilleure gestion de leur forêt, et pour ça, ils ont besoin de moyens. Et là, dans nos forestiers pilotes, on en a un qui nous a dit « Mais merci, j'allais couper ces chênes de 90 ans. Grâce à vous, j'ai une alternative. » Donc, on a mis en face de lui une entreprise qui a mis 45 000 euros dans sa forêt. Lui a gardé ses chênes vivants et il a pu faire des travaux de gestion qui sont, par exemple, faire des fossés parce qu'il y avait un endroit qui était trop marécageux et les arbres étaient dans trop d'eau et du coup étaient en train de pourrir. Ou il a un autre endroit où il a une parcelle de 5 hectares en auto-régénérescence, ça veut dire qu'il se régénère par elle-même, mais qui n'a pas assez d'ombre. Donc les ronces poussent plus vite que les jeunes chênes. Donc tous les 2 ans, il y a des hommes qui viennent à la main enlever les ronces. Donc ça, c'est un coût. Et si jamais on ne fait pas ça, les chênes ne vont pas voir le jour. Donc ce forestier-là allait couper des chênes pour pouvoir financer ses travaux. Et grâce à notre solution, il peut garder ses chênes vivants et en même temps faire progresser les capacités de sa forêt.
Alors qu'est-ce qu'elle fait concrètement, votre solution?
Donc, notre solution, elle permet de donner une valeur financière à l'arbre vivant sans avoir besoin de le couper. Et donc, puisque cet arbre a une valeur financière, elle permet à des entreprises et demain à tous les particuliers de pouvoir investir dans l'arbre. Mmh. Et puis ensuite, une fois que le particulier ou l'entreprise a investi dans l'arbre, il aura 2 solutions. Soit de le garder jusqu'à la coupe de l'arbre et de récupérer la valeur qu'aura pris l'arbre en grossissant et avec l'augmentation des cours. Si on se base sur les 20 dernières années, ça serait du 6% annuel. Soit de le revendre sur un marché secondaire. Et donc de pouvoir investir dans l'arbre sans être lié à la temporalité de l'arbre.
D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une entreprise a envie d'investir dans... Donc, c'est... Bon, il y a la renta. Comment toi, donc, tu parles de la solution, on donne une valeur à un arbre. Comment elle fait ta solution pour donner la valeur à un arbre? Elle passe par un expert forestier?
Oui, en fait, ce sont des arbres qui ont une valeur sur la place. Si on les coupait, des scieries les achèteraient. Mmh. Donc la valeur qu'on donne aux arbres aujourd'hui sont la valeur auxquelles ils seraient achetés par les scieries. Okay. On a un algorithme qui les valorise et on a un expert financier qui met un coup de tampon et qui confirme la valorisation ou corrige si nécessaire. C'est toujours, l'expert forestier qui a le dernier mot.
Okay.
Voilà comment on les valorise.
D'accord. Et ça, c'est cette manière de faire, de proposer aujourd'hui plutôt à des entreprises parce que vous n'avez pas encore votre agrément pour travailler avec des particuliers. Est-ce que cette méthode d'investissement dans les forêts, ça existe déjà? Est-ce qu'il y a d'autres manières d'investir dans les forêts? Quel est le benchmark
Alors, aujourd'hui, les entreprises qui investissent, c'est dans le cadre de leur budget RSE.
D'accord.
Donc, on a par exemple la revue fiduciaire qui est très engagée, qui investit dans plusieurs causes. Je la cite parce qu'en même temps, comme son nom l'indique, elle a une connaissance sur ce qu'est la finance, elle est très avisée. Donc, ils ont bien conscience qu'ils ne sont pas à l'abri d'une bonne affaire d'un point de vue financier. Et en même temps, ils sont extrêmement engagés sur les causes RSE.
D'accord.
On a aussi un réseau de 500 entrepreneurs qui investissent chez nous parce que, en tant qu'entrepreneurs, ils veulent voir un impact immédiat. Et donc, ils ont compris que les arbres qu'on gardait en vie grâce à notre solution Trimium avaient un impact immédiat sur le climat. Et puis, parce que c'est aussi un réseau d'entrepreneurs et ils aimaient le fait que ça soit une initiative d'entrepreneurs avec comme idée d'apporter de la valeur et au forestier qui garde son arbre et à l'entreprise, puis demain au particulier qui va investir dans cet arbre-là.
Ok, donc ça, c'est plutôt les gens qui travaillent avec vous, Trimium, sur ces sujets d'investissement.
Ça, c'est nos premiers clients, okay. Qu'on appelle nos clients pilotes, sachant que nos clients sont les forestiers. On est un peu comme courtier entre les forestiers et les personnes qui investissent dans les arbres de nos forestiers.
Ouais. Oui, donc ça, c'est une bonne manière de l'imaginer. Je me pose la question d'investir dans les forêts. Si je tape investir dans les forêts, donc il y a le sujet Trimium, mais est-ce qu'il y a d'autres manières d'investir dans les forêts? Ah oui. Comment ça se manifestait aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui?
En fait, jusqu'à aujourd'hui, tu peux investir en achetant de la forêt, donc oui. En achetant le sol et les arbres.
D'accord.
Souvent, il faut pas mal de moyens. Tu as quelques groupements forestiers qui commencent à donner des accès avec des sommes un peu plus petites. Tu n'as pas du tout les mêmes genres de rendement, ni cette possibilité de marché secondaire. Parce que le rendement de la forêt, c'est 2% à peu près en moyenne.
D'accord.
Si on regarde dans les 20 dernières années quel type de rendement on aurait chez Trimium, c'est 6%. Parce que dans le panier de l'investisseur, tu as des arbres qui ont déjà atteint un certain niveau de maturité.
D'accord.
Donc tu ne vas pas avoir de pertes d'arbres qui vont mourir précocement. Tu n'as pas de frais sur ces arbres qui, une fois qu'ils ont atteint un certain âge, ne font plus que pousser. Donc, ce que tu prends comme valeur, c'est 2% en volume à peu près, en moyenne, annuellement, plus l'augmentation des cours du bois. Donc, si tu te fixes sur les 20 dernières années, tu vois cette augmentation-là. On peut parier qu'on a de plus en plus besoin de bois et qu'en même temps, il y en a de moins en moins. Donc, il y a des chances que ce soit soutenu et que l'augmentation des cours du bois continue à progresser.
D'accord.
Et donc, effectivement, aujourd'hui, quand tu investis dans la forêt, c'est soit tu achètes des forêts, et souvent, c'est un petit peu comme c'est du très long terme, tu sais que quand tu gères une forêt, tu achètes pour tes petits-enfants, en okay. quelque sorte.
C'est pour ça que ça coûte une forêt ?
Une belle forêt de chênes dans le centre de la France, avec tu peux être entre 10 000 et 15 000 euros de l'hectare. C'est très varié, mais je te parle
d'accord.
vraiment des belles okay. forêts. Après, ça va de 5-6 000 euros de l'hectare suivant les essences que tu peux avoir. Ces temps-ci, on a vu même du 20-25 000 euros de l'hectare. On voit des prix qui sont très, très élevés en ce moment.
D'accord, parce qu'il y a un effet... Je me suis toujours dit, moi, que j'avais envie de garder la forêt s'il y avait besoin de
oui.
construire une cabane.
C'est tout à fait raison. C'est vrai que peut-être qu'en moment où il y a de plus en plus de monde, on peut se dire que ça va être l'endroit où avoir une petite bulle. Je suis assez d'accord avec toi. Mais c'est surtout parce que, d'après moi, mais il y a de moins en moins de bois et de plus en plus besoin de bois. Donc, ça devient un placement extrêmement sécurisé.
Ok. Ouais,
oui, exactement.
Pas mal évoqué le sujet de marché secondaire. Donc ça, c'est possible parce qu'en fait, la techno Trimium repose sur la blockchain.
Exactement.
Right. J'ai bien fait mes devoirs.
Est-ce
que tu veux nous en dire plus?
J'ai écouté ton podcast sur la tokenisation immobilière.
Ah, avec Florian, oui.
Exactement. Donc franchement, c'est un peu le même principe, sauf que là, c'est...
Je suis tellement secouée, je n'aime pas la tokenisation.
Mais en fait, alors, c'est pour ça que... Je comprends que tu n'aimes pas la tokenisation parce qu'il y a une grosse confusion entre les cryptos et la technologie blockchain. Et les tokens, il n'y a pas besoin d'utiliser ce mot, en fait, et on ne va pas du tout l'utiliser. Trimium peut exister aujourd'hui et n'aurait pas pu exister il y a 10 ans parce qu'il y a un assemblage de différentes technologies. Le premier, c'est de pouvoir faire des inventaires d'arbres en utilisant des drones et des capteurs LIDAR et multispectral qui te permet d'avoir vraiment la carte d'identité de l'arbre avec ses coordonnées et ses caractéristiques. C'est une technologie qui existe et qui nous permet de créer le jumeau numérique de l'arbre et que chaque arbre soit unique. Ce qui va te permettre de voir tes forêts de n'importe quel ordinateur, ce qui est quand même assez magnifique.
Regarde tout en même temps. Hein.
Okay. Ensuite, tu as d'autres outils, d'autres sociétés qui travaillent sur le suivi des arbres par satellite. Okay. Ce qui fait que nos arbres Trimium, tu peux, avec une image satellite, voir s'ils ont des risques de dépérissement, etc., s'ils sont toujours là. Donc ensuite, au fur et à mesure de leur durée de vie, tu peux les suivre par satellite. Ça, c'est une autre technologie, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans. Ensuite, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle la blockchain, qu'on appelle le Web 3. Tu vois, il y a eu le Web 2 qui était Internet, qui a fait qu'au lieu d'aller toujours au magasin, on pouvait acheter sur Internet. Maintenant, il y a le Web 3 qui fait que tu peux vendre et faire des allers-retours et avoir un marché secondaire avec quelque chose qui est infalsifiable, qui est traçable et qui ne peut pas être piraté à un moment où on parle énormément de cybersécurité. Voilà pourquoi la technologie blockchain, Trimium, est vraiment le cas d'usage où le fait d'utiliser cette technologie rend possible et rend une vraie possibilité de scalabilité sur la solution Trimium qui peut après être partout dans le monde.
Oui, et donc de ce que tu disais, dire dans les deux options au moment de faire de la renta pour l'investisseur Trimium, et on parlera un petit peu de la manière dont vous allez adresser les particuliers après, de faire effectivement soit je fais de la cession au moment où l'arbre est vendu, ou une partie de la forêt est vendue, ou l'arbre est coupé, soit je fais donc du secondaire, c'est que je cède mes parts dans la forêt. Et éventuellement même mes parts d'un arbre aussi.
Exactement.
L'objectif de Trimium, c'est de rendre l'investissement forestier accessible à partir de quel ticket d'entrée ?
C'est dès 100 euros, puisque c'est dès un arbre. Mmh. Donc en moyenne, on considère que la partie d'arbre qu'on vendra est de 100 euros, donc c'est dès 100 euros.
Ok.
Donc, et c'est vrai que c'est à nouveau une technologie qui permet de donner l'accès à l'investissement dans des arbres à tout le monde. Mmh. Sans avoir besoin d'avoir des énormes tickets.
Oui, oui. Ah bah c'est... Puis je trouve que 100 euros, c'est bien, parce que c'est quand même, c'est une petite somme. Tu vois, c'est pas 10 euros, c'est idiot, c'est pas du tout que je favorise, que j'ai envie de favoriser le truc élitiste, mais je trouve qu'une décision d'investissement, ça reste une décision d'investissement. Et bon, 100 euros, ça, on y réfléchit un peu, quoi. On se dit, est-ce que je vais mettre 100 euros et je trouve ça bien.
Tout à fait. Non, mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. Et un arbre, il faut quand même prendre conscience que c'est quelque chose. Et donc, effectivement, il faut qu'il y ait un certain... Je suis d'accord avec toi, il faut que ce soit un certain prix pour que on le sente.
Un petit peu. Aujourd'hui, vous travaillez donc avec des forestiers pilotes, des forêts pilotes. Vous avez beaucoup de clients, c'est quelque chose qui se... Tu sens qu'il y a une appétence forte pour...
Alors, il y a une appétence forte du côté des forestiers, ça répond à un de leurs problèmes d'avoir à gérer cet enjeu et ce dilemme de couper leurs arbres trop tôt pour des raisons économiques versus pour une bonne gestion de leur forêt et pour l'environnement, de garder les arbres jusqu'à un bon niveau de maturité. Donc, on sent du côté des forestiers cette demande. Aujourd'hui, ensuite, on a des entreprises pilotes pour la partie budget RSE. Donc, on travaille effectivement avec des entreprises qui sont extrêmement engagées.
D'accord.
Elles le font toujours pour et avec leurs salariés. Donc, ce qui nous convient bien, puisque demain, nos clients seront des particuliers.
Okay. Ça vous permet de tester un petit peu l'appétence auprès de... Et comment ça se manifeste ? C'est-à-dire qu'ils mettent une partie de l'intéressement
Non. Quand on leur demande pourquoi est-ce que vous venez chez nous, est-ce que vous avez besoin de communication pour l'extérieur, etc., ils nous disent non, on le fait pour nos salariés, on communique en interne.
D'accord.
Mais c'est leur budget RSE, c'est pas le budget... Mais c'est... En fait... Je trouve qu'il y a un petit peu une image, il y a 30 ans, on voyait un peu l'image hollywoodienne, la personne qui était fière d'aller travailler, de rentrer dans une grande tour et dire « waouh, c'est ça mon bureau ». Et aujourd'hui, les talents qu'on veut attirer, ils vont dire « waouh, c'est ça mon bureau », s'ils sentent que l'entreprise est investie dans des causes qu'ils portent aussi.
Ouais, c'est
ça, voilà. Et j'ai eu plusieurs jeunes très qualifiés qui sont venus travailler avec moi pour mettre en place ce projet. Ils ne sont pas venus pour l'argent, parce qu'au stade de Trimium, on est encore early stage. Donc, ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus. Ils sont vraiment venus parce que c'est un sujet qui les tient à cœur et aussi parce qu'il y a des belles technologies. Mais c'est vraiment le sujet des générations qui arrivent qui est hyper important pour eux.
Oui, je me suis fait la réflexion en voyant les profils sur ton site. Ouais.
Oui, c'est des jeunes. C'est un vrai bonheur d'avoir la chance de travailler avec ces jeunes. Et en même temps, ça me conforte dans le fait que la génération qui arrive a besoin qu'on prenne cette cause à bras-le-corps pour leur protéger leur forêt. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit peu comme si on consommait des arbres qui ne sont pas arrivés à maturité trop tôt. Donc, on est en train d'utiliser...
Manger des tomates, c'est pas... manger des avocats,
oui, mais tu vois, des tomates et des avocats, c'est un peu agaçant. Mais des arbres, c'est irréparable. Ouais. Parce qu'il va falloir les arbres qu'on coupe trop tôt et il faudra 80 ans pour compenser ça. Ouais. Ou bien, si on veut aller dans l'efficacité, je vais te donner un autre exemple. Tu vois, des forestiers qui sont un peu pris à la gorge, entre guillemets, donc qui font des coupes rases de forêts de chêne biodiversité, avec beaucoup de biodiversité, parce qu'une forêt de chêne, c'est toujours de l'auto-régénérescence, donc c'est jamais monoculture. Donc en termes de biodiversité, c'est très important.
D'accord.
Et en fait, eux, ils peuvent aujourd'hui couper des chênes à 90 ans, puisqu'il y a une demande. Ils pourraient aller replanter des douglas, c'est des résineux, qu'on va recouper dans 45 ans. Donc, ils ont deux fois des revenus.
Oui.
Donc, d'un point de vue économique, pour gérer leur forêt, ça paraît une très bonne solution. Oui. Sauf qu'une fois qu'ils vont avoir planté des résineux, des douglas, comme c'est des résineux, ça acidifie le sol. Donc, tu n'as pas de marche arrière possible. Tu ne pourras pas remettre des chênes derrière.
D'accord.
C'est des changements qui sont définitifs. C'est pour ça que notre solution qui leur dit, ben, quand vos arbres ont 90 ans, on vous apporte des revenus. Oui. Vous les gardez debout. Quand vous allez les couper, vous allez avoir l'autre part de vos revenus dans 50 ans. Finalement, ça leur fait le même effet que de les couper, de planter des douglas, sauf qu'ils n'abîment pas la forêt.
En fait, ça touche au vivant, ça touche à l'argent, ça touche à la démarche responsable des sociétés. Ça touche aux particuliers parce que demain, ça touchera le particulier. Donc, c'est vraiment un gros sujet. Et je trouve que je préfère qu'on prenne le temps, tu vois, de vraiment comprendre.
Vas-y, parce que c'est tellement complexe et on voit tellement d'erreurs de personnes bien intentionnées.
C'est quoi les erreurs les plus communes ?
Alors, des erreurs communes, je ne sais pas, mais tu vois, il y a une scène, par exemple, en forêt, que tu ne trouveras jamais sur Internet ou dans un livre, où tu te promènes avec un forestier, puis tout d'un coup, tu entends le forestier bougon dire « Oh, ils m'ont enlevé mes fougères. Maintenant, les racines de mes arbres vont avoir trop chaud, ça va me fiche en l'air mes arbres.
Ouais. »
Tu vois, il y a une connaissance de la terre et sur le terrain qu'on ne trouvera jamais dans des livres.
D'accord. Oui, donc il y a des choses que... Oui, tu t'imagines que les fougères, c'est des mauvaises herbes et tu vas les enlever.
Alors que justement, elles avaient au moins, elles maintenaient à l'ombre des racines d'arbres. Après, une erreur, ça serait peut-être dans le lifestyle. C'est que tu vois beaucoup de jeunes et pas que des jeunes qui ont des rêves de faire du bien à la forêt. Puis après, tu leur dis, et qu'est-ce que vous a apporté la forêt quand vous êtes allé en forêt ? Et ils te répondent, j'y suis jamais allé. Et c'est dommage, parce qu'ils sont pleins de bonnes intentions, ils sont intelligents. Et donc l'erreur, c'est de ne pas aller assez en forêt.
Parce que moi j'en ai parlé avec mes parents, donc on en parlait un petit peu avant le début de l'épisode, mais j'ai des enfants qui sont très petits et des grands-parents. Ma maman a encore ses parents et moi ce sont eux qui m'ont fait découvrir la forêt. Ils avaient une maison en Charente et on y allait, ils sont très élégants comme ça, mais en bref, ils avaient des petites maisons en Charente.
Non, mais attends, au milieu de la forêt, ça fait rien du tout, c'est juste un monde à part, quoi, c'est une bulle à part.
Mais c'était merveilleux, enfin, moi tu vois, je me rappelle que, typiquement, moi je me rappelle qu'on m'interdisait de toucher aux fougères. Pas tellement parce qu'il ne fallait pas enlever l'ombre des arbres, mais parce qu'en fait, arracher une fougère, vous pouvez vous ouvrir la main.
C'est voilà. Notre...
Parce que ça peut faire hyper mal. C'est des plantes qui sont hyper ancrées dans le sol. Et moi, j'ai effectivement une cousine qui s'est fait hyper mal à la main en essayant d'arracher des fougères. Et je disais à mes parents, à mon papa et ma maman, je disais en fait, mais qui va faire découvrir à mes enfants la forêt ? Qui va les emmener se balader ? Qui va tailler un bâton avec eux ? Qui va effrayer les couleuvres et les vipères ?
T'as tellement raison, c'est tellement ça. Et puis, qui va entendre aussi le silence et le bruit de la forêt qui est unique, que tu n'entends jamais ?
Mon père m'a promis que lui ferait ça. parce que moi, pour le coup, nous, on vient d'une famille très attachée à la nature. Mais c'est vrai que tu vois, ça m'a frappée. Je me suis dit, dans toute mon éducation, en tout cas, dans ce qui a fait de moi l'adulte que je suis aujourd'hui, bah, qui va faire ça ? Parce qu'en fait, moi, je n'y vais plus jamais en forêt.
Non, il faut vraiment se donner le temps d'y aller. C'est génial que tu y aies passé du temps. Et moi, je pense que j'ai eu une énorme chance aussi de pouvoir y passer du temps. Et...
Je pense qu'on grandit dans les régions où on a grandi. Tu passes du temps en forêt, quoi. Mais parce qu'on vient de régions très vertes et de génération. En fait, on vient de générations où les... où t'étais encore proche de la forêt. Tu vois, on avait encore des gens proches de nous, en âge, entre guillemets, en tout cas, qui s'occupaient de nous, qui, enfin, toi, ton père, clairement, ouais, dans le truc, et qui t'amènent et qui te transmettent, tu vois, les champignons. Voilà.
Ah non, mais c'est... mais il y a quelque chose en forêt, et c'est un peu... j'aime bien revenir toujours à la temporalité de l'arbre, et c'est un peu pour ça que j'ai pris le chêne, parce que c'est encore plus... Dès qu'on est au milieu de la forêt, on n'est pas dans le même référentiel temps. C'est pour ça que même si tu te poses une heure en forêt, ça sera comme si tu y avais passé beaucoup plus de temps. C'est un moment entre parenthèses.
Ah, donc c'est extraordinaire. J'ai fait une semaine de randonnée dans le Vercors l'an dernier, et ça m'a
ouais, c'est fou. Ouais, c'est ça, c'est... La terre, la nature, l'arbre.
Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire quand tu veux investir dans les forêts? Souvent, on dit que tu n'investis jamais.
Alors, honnêtement... J'aurais tendance à dire investir dans une forêt sans avoir l'avis d'un expert, parce que c'est extrêmement difficile de savoir si les arbres sont malades. Enfin, il y a tellement... la qualité de l'arbre, c'est tellement particulier qu'il faut vraiment avoir l'œil de quelqu'un qui a une vraie connaissance. C'est ça l'erreur à ne pas faire, c'est investir seul en se disant « Non, non, il m'a dit, c'est très bien, j'ai confiance. » Non, non.
Les experts forestiers, il y a un site sur lequel tu peux trouver tous les experts forestiers français.
Oui, ils ont un site. Effectivement, tu tapes experts forestiers, tu vois leur site, ou t'envoies un message à Trimium et je donnerai l'expert du coin.
Et quand tu as envie d'aller plus loin sur le sujet, de te renseigner sur l'investissement dans la forêt, etc., est-ce qu'il y a des ressources particulières que tu conseilles, quelque chose de...
C'est pas facile, parce que c'est justement une des choses, c'est que la forêt est peu digitalisée, donc et puis ça part, il y a beaucoup de bouche à oreille, donc ça part très vite.
D'accord.
Donc c'est vraiment, c'est des choses qui sont très locales. Tu sais que même la valeur du bois souvent est liée au nombre de scieries qui sont autour de la forêt. C'est te dire qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement local. Donc, je crois que on est encore dans quelque chose qui n'est pas encore si mondialisé que ça. Et il faut absolument aller se promener en campagne, près de forêt, et lier des contacts avec, j'allais redire, des experts forestiers, probablement des coopératives forestières aussi.
L'expert forestier restera notre meilleur copain de cet épisode.
Oui. On travaille main dans la main avec eux, c'est vrai.
C'est hyper intéressant. Ce que j'essaye de faire généralement en fin d'épisode, est-ce que je pense qu'on a pas mal fait le tour là. Si j'ai d'autres questions qui me viennent, je les poserai. Mais là, je vais essayer de ne pas vous perdre, chers auditeurs. Parce que je pense qu'on vous a donné plein d'informations là. J'aime bien connaître un peu le profil d'investisseur de mes invités. Et donc, généralement, la première question que je pose, c'est si tu devais refaire les choix d'investissement à 20 ans, 30 ans, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment dans ta vie? Parce que entrepreneur, donc généralement on investit dans sa boîte.
J'ai plus effectivement investi dans mes entreprises.
Ouais.
J'ai investi peu dans l'immobilier parce que je suis, j'aime bien être assez mobile. Hein.
Donc toujours l'histoire du cordonnier mal chaussé.
Oui, exactement. Et par contre, enfin, je parle de mobilité toute. Bon, je pense que j'aurais plus investi dans la forêt, bien que j'ai vécu dedans, mais je me rendais pas compte il y a 20-30 ans à quel point ça me tenait à cœur.
D'accord.
Et en termes d'investissement, c'est intéressant parce que en même temps c'est une bulle. Tout à l'heure tu parlais de la possibilité de faire sa cabane, et en même temps c'est des placements qui ont des racines, qui sont stables. Donc je pense que j'aurais plus investi dans la forêt. Après, je suis plutôt un investisseur qui investit dans les valeurs mobilières, toujours pour ne pas être trop, pour pouvoir, parce que l'immobilier c'est pas du tout, c'est pas fait pour moi, mais j'en vois d'autres qui sont dans l'immobilier. Ça permet de rester très très libre, les valeurs mobilières. T'as pas grand chose à faire en fait une fois que t'as investi.
C'est intéressant comme point de vue. On m'avait jamais présenté comme ça. Est-ce qu'il y a une règle que tu t'imposes dans tes investissements, un conseil qu'on t'aurait donné, quelque chose que t'appliques, peut-être issu de ta formation financière, je sais pas.
Je suis pas mal sur des sociétés du CAC 40 relativement diversifiées et ça fonctionne bien. Donc, c'est des investissements sur lesquels il ne faut pas mettre d'émotionnel. Après, j'investis un peu dans des fonds qui eux-mêmes investissent dans des startups parce que j'adore le monde de la tech et du coup, je me dis que c'est une façon de les soutenir. Et puis, comme tu dis, j'investis après dans ma propre entreprise.
Est-ce qu'il y a une personnalité du monde des affaires, de l'entrepreneuriat ou n'importe où qui t'inspire au quotidien ?
Il y en a quelques-unes. Il y en a une qui est passée en podcast avec toi. Par exemple, aujourd'hui, je suis pas mal inspirée par Hugues Le Bret. Et on a des points communs sur... j'ai pas mal lu Nos Banques. La difficulté de la réglementation et du besoin d'avoir l'agrément AMF. Et du coup, le début où c'est difficile d'avoir une traction commerciale tant que tu n'as pas cet agrément AMF. Et il y a évidemment un parallélisme avec Trimium. Et en même temps, la façon dont il s'est accroché, dont il n'a pas lâché à un moment où c'était difficile, c'est inspirant. Donc après, je trouve que dans le monde de l'entrepreneuriat et des startups françaises, il y a plusieurs acteurs qui ont été super intéressants ces dernières années. Il peut aussi y avoir un Jean-Baptiste Trudel qui est extrêmement discret et qui a été visionnaire, qui est allé ouvrir les États-Unis.
C'est des beaux profils. Enfin, moi, personnellement, je suis une grande fan d'Hugues aussi. Quand je l'ai rencontré, je me rappelle la première fois où je l'ai vu, je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, je vais être Hugues Le Bret quand je serai grande. Parce que vraiment, non, je trouve qu'il est... En plus, c'est un homme de lettres, un homme de mots.
Oui.
Et moi, c'est mon métier.
Et puis, au moment où il a monté Nos Banques, il y en a plein qui n'auraient pas eu trop... J'aime bien, en fait, ces hommes ou ces femmes où il y a à la fois une vraie compétence et à la fois quelque chose de très intéressant dans un défi de personnalité.
Oui, je trouve un côté très irrévérencieux malgré le parcours qui, en fait, est déjà pas classique, mais hyper homogène. En fait, le côté communication, investisseur, relation investisseur, puis le passage sur compte nickel, etc.
Ouais.
Les livres, la Cité Générale, enfin... C'est à la fois très homogène et de loin, si tu regardes de très loin, enfin un peu en mode macro, ça fait un peu le parcours classique du cadre à plus à grand succès dans l'industrie bancaire et financière française. Et en fait, si tu regardes, il y a quand même un truc en plus, quoi.
Oui, tout à fait. Non, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui a aussi une vie intérieure. Tu le vois dans sa capacité à aller faire des randonnées, etc. Donc, Bon, voilà, et on essaye tous d'être le chef à l'intérieur, donc ça doit être inspirant. Il y aurait probablement toi aussi. Non, mais tu apportes une gaieté au monde de la finance qui est très agréable.
Oui.
Et c'est magnifique, Anna Xago, bravo.
Ouais, c'est sympa, merci. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé qu'on te pose sur Trimium ou sur les forêts ?
Ah ouais, tu pourrais me demander de quoi est-ce que j'ai besoin.
Besoin là, pour le développement
de
Trimium pour la suite.
J'ai besoin de beaucoup de choses dans une startup early stage. J'ai besoin de beaucoup de talents, donc et puis éventuellement d'investisseurs et d'associer éventuellement investisseurs et talents à Trimium. Donc voilà ce dont tu as besoin exactement.
Vous allez vous lancer dans une levée de fonds bientôt ou vous êtes
On est en train effectivement de rechercher des business angels.
Merci pour tout, merci pour toutes ces explications. Chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous, que vous avez appris plein de choses sur le fonctionnement de la forêt et sur la manière dont on va pouvoir la sauver, la sauvegarder grâce à la finance et les nouvelles technologies. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Argent Compté.
Merci Caroline.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Compté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline@argentcompté.com si vous avez des questions ou des idées, ou bien entendu via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. À très bientôt pour un nouvel épisode.